les jardinières.
Bonjour à tous les leftos, bienvenue dans les jardinières et bonjour Sarah.
Bonjour Stéphanie, ce matin il a défié les températures sibériennes pour nous rejoindre. On a le plaisir d'accueillir Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy. Il sera en notre compagnie jusqu'à 8h. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Il suffit de jeter un petit œil par la fenêtre ou de risquer de mettre le nez dehors pour se rendre compte que l'hiver n'a de loin pas dit son dernier mot. Le froid glacial est bel et bien installé dans notre région, que vous habitiez en plaine ou en montagne. Tout le monde est logé à la même enseigne. On grelotte et on n'est pas les seuls. Nos arbustes, nos plantes et nos espaces verts sont mis à rude épreuve. Alors que risque-t-il avec ce froid et nos plantes intérieures sont-elles vraiment à l'abri du froid? On répond à toutes ces questions avec Fabrice Rondet, des questions que vous pouvez lui poser en direct.
Pour ça, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Tout d'abord, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Que vous soyez habitué au jardinage ou simplement amateur, Fabrice Rondet s'intéressera à votre problème personnellement. Si vous n'avez pas envie de parler de si bon matin, vous pouvez opter pour la solution du SMS et nous envoyer le mot jardin en début de message, un espace suivi de votre question, le tout au 939. Il existe également le formulaire internet sous l'onglet émission question jardinière. Et dans les deux cas, donnez-nous un maximum de détails sur votre problème de jardin afin que Fabrice Rondet puisse détailler sa réponse au maximum.
Eh bien, tout est dit, les jardinières, c'est parti.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Brigitte de Vic reçoit régulièrement des bouquets de fleurs, la petite chanceuse. Elle se demande si pour les garder plus longtemps, elle doit changer entièrement l'eau du vase ou seulement une partie suffit. Et à quelle fréquence le faire, Fabrice?
Alors, d'après nos amis les fleuristes, donc, ce qu'elles nous recommandent toujours, c'est de changer l'eau pratiquement tous les deux jours, et puis de mettre une eau tempérée, et puis donc entièrement, et puis donc de rafraîchir un petit peu les coupes des tiges. Et puis après, comme ça, on devrait pouvoir prolonger un petit peu cette tenue du bouquet dans notre vase.
Et par rapport la petite substance qu'on ajoute généralement quand on reçoit un bouquet de fleurs, est-ce que c'est grave si finalement on jette l'eau avec cette substance puis qu'on la remplace par de l'autre?
Ben, il n'y a pas longtemps, on m'a dit que ce n'était pas super important cette substance, que l'important c'était justement le rafraîchissement et le changement d'eau. Et puis qu'après ça, c'était le petit plus qu'on pouvait apporter pour le maintien des feuilles et puis des fleurs.
Nous avons Jean-Yves qui possède un ficus licara. Depuis quelques années, il se portait bien, mais depuis quelques temps, il perd ses feuilles à la base et celles en bordure. Et au centre, elles ont des taches brunes. Alors que faire, Fabrice?
Mais dans un premier temps, moi je serais assez tenté de dire que c'est un problème d'arrosage, qu'il est probablement un peu trop arrosé. Et puis laisser un laps de temps un petit peu plus important entre les arrosages et puis de diminuer les apports d'eau. Laisser essuyer donc un petit peu le terreau en surface. Une fois qu'il a essuyé en surface, on a la couche du fond qui est un petit peu humide. Et puis là, rapporter un petit peu d'eau. Et puis comme ça, de faire un arrosage par semaine, ça devrait normalement suffire. Je ne pense pas que ce soit plus grave que ça, parce qu'en hiver, c'est en général le classique un petit peu de pas mal de plantes d'intérieur, ce problème d'un surcoût d'arrosage.
Donc, si je comprends bien, ça n'a rien à voir avec peut-être le surplus d'eau qu'il y a au fond du bac.
Le surplus qu'il y a au fond, c'est un indicateur quand même qu'on a apporté trop d'eau. Donc, il faudrait, quand on apporte de l'eau en hiver, il ne faudrait pas qu'on ait un excédent d'eau qui parte dans la soucoupe. Si on le voit ça la fois d'après, il faudrait faire pour pouvoir s'arrêter un petit peu avant. Donc, de regarder d'apporter ça, de regarder combien on apporte. Par exemple, si on apporte 2 décis, ça dépend toujours de la grandeur. C'est difficile de donner une quantité parce que tout dépend de la grandeur du pot et de la plante. Les besoins ne seront pas les mêmes. Donc, on regarde si, par exemple, on apporte 2 décilitres et puis qu'on a de l'eau qui part en bas, peut-être apporter qu'un décilitre. On laisse se dessécher la couche du dessus. Et puis après, quand c'est desséché, là, on rapporte un petit peu d'eau. Et là, tout devrait bien se passer au niveau du passage de l'hiver pour cette plante.
Il y a eu un lefto ce matin, Sarah, il y a quelqu'un qui nous a appelé pour poser une question.
Une lefto, c'est Claudine qui nous appelle de Cernier. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Bonjour.
Mesdames,
messieurs. Bonjour.
Je suis régulièrement votre émission, comme je suis une lefto.
Bien.
Et puis, j'ai eu une petite surprise hier, enfin c'est pas de hier, mais j'ai réussi de faire... avec un noyau d'avocat à le faire pousser. Il m'a fait des jolies feuilles, pas de problème, il était dans une chambre un peu fraîche. Et puis comme je ne suis pas beaucoup à Bôle, parce que j'ai mon ami qui est hospitalisé et puis qui est malade, c'est donc la deuxième fois que j'y vais, et puis ma foi, il pleure. Toutes les feuilles sont en bas et séchées. Donc je pense qu'il a été oublié d'être arrosé. Comme c'est mes voisins qui s'occupent de l'arrosage, je ne sais pas. Il ne savait pas quoi faire. Je l'ai déplacé hier, je l'ai mis au salon, il fait un peu plus tiède. Je lui ai mis de l'engrais. Il y a une feuille qui est tombée, les autres tiennent, mais je ne sais pas si je dois le couper ou ce que je dois faire.
Alors vous dites que les feuilles sont tombées, mais est-ce que la tige est restée bien verte ?
Oui, oui, tout à fait. Les feuilles aussi.
Donc les feuilles, elles sont restées crochées après la tige, mais elles sont pendantes le long de la tige.
Exactement.
Ouais. Alors je pense effectivement qu'il y a eu un problème d'arrosage peut-être. Et puis ce qu'il faudrait faire, c'est juste apporter un petit peu d'eau. Mais ce qu'il faudrait pas, c'est comme on a dit avant, il faudrait pas peut-être détremper la plante. Regardez pour apporter un petit peu d'eau au niveau de l'engrais. Soyez pas trop, n'en apportez pas trop. Et puis regardez pour bien suivre l'arrosage ces prochains temps, en tenant légèrement humide cette motte. Et puis ce qui risque de se passer, c'est que vos feuilles vont tomber, se dessécher et tomber. Et puis par contre, ce qu'on pourrait voir arriver normalement, c'est d'avoir les bourgeons qui redéveloppent des nouvelles feuilles. Voilà.
Donc depuis le haut.
Voilà, exactement, oui.
D'accord. Je ne savais pas s'il fallait le couper, puis le laisser repartir à...
Pour l'instant, ne taillez rien du tout, laissez-le comme ça, ouais. Normalement, ce qui devrait se passer, c'est qu'en cas de stress, une plante, elle réagit, elle va se mettre un petit peu en dormance, en veille, elle va s'économiser, et puis si vous rapportez les éléments qu'il lui faut, normalement, elle devrait se réveiller, et elle devrait repartir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que entre le laps de temps où c'est qu'elle a manqué d'eau, les feuilles sont restées vertes, mais elles sont pendantes, vous dites, donc ce n'est pas un stress qui devrait être trop important, c'est juste un accord. Coup. Donc ce qui devrait se passer, c'est que la racine n'a pas desséché, n'a pas souffert. Donc on devrait avoir les bourgeons qui redémarrent et puis on devrait avoir de nouvelles feuilles qui apparaissent.
Enfin, je vous tiendrai au courant si jamais.
Ben, je vous le souhaite que ça marche en tout cas.
Oui, ben, pour une fois que j'ai réussi. J'avais réussi.
Mais ça veut dire que vous pourrez recommencer, vous avez trouvé la combine, c'est déjà pas mal.
C'était énorme.
Voilà.
Maintenant, je suis en train de m'amuser parce que j'adore ça. Avec du gingembre. Et puis, j'ai une autre question. Ici, donc, à Cernier, où je suis actuellement, hier, j'étais à Bôle, aujourd'hui, je suis à Cernier. Et puis, comme c'est mes voisins qui s'occupent de mes plantes, je sais qu'il y a des oublis. Parce que j'ai retrouvé bien noyé. Il y avait beaucoup d'eau dans la soucoupe. Alors, je pense que M. Marino, il a oublié.
Et il l'a noyé. Même si c'est un passage.
Et quand on a affaire aux autres, vous voyez, c'est compliqué. Et puis ici, il y a un Dracaena qui l'a déjà depuis un certain temps, mon ami Michel. Et puis, il m'a fait des surprises, comme c'est moi qui m'occupe de sa plante, entre autres. Il y a eu d'abord une invasion de petits moucherons. Là, j'ai acheté le produit nécessaire, donc il n'y en a plus. Mais par contre, sur les feuilles... Il y a des petites taches jaunes.
Alors là, ce qu'il faudrait faire là aussi, c'est regarder. Vous regardez chez un revendeur et puis vous devriez trouver par rapport aux symptômes que vous avez les produits qui correspondent pour. Éliminer ce souci. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre une feuille ou prendre tout simplement une photo. Et puis, comme ça, votre vendeur va vous montrer où vous pourrez trouver sur l'emballage le problème correspondant. Ou bien, vous pouvez aller voir via Internet aussi sur des photos. Vous tapez plante d'intérieur, maladie, des choses comme ça. Et vous verrez tout de suite les symptômes qui vont apparaître. Et puis, vous pourrez vous rapprocher comme ça au plus juste de la maladie qui apparaît et faire le traitement qui va en conséquence. C'est peut-être le mieux à faire. Mais effectivement, le problème de surplus d'eau peut provenir justement d'un manque. Après, on apporte beaucoup d'eau. Et ça peut être aussi des stress pour la plante parce que trop arrosé peut être asphyxiant, peut entraîner des pourrissements. Donc, c'est pas top ça non plus. Ouais, exactement.
la main assez verte. Non, mais ce dracéna, je surveille de près. J'ai encore mis de l'eau hier, parce que j'ai vu qu'il avait vraiment soif. J'ai mis, comme vous dites si bien, puis ça je sais, parce que j'ai travaillé dans un rayon fleurs aussi. Et puis c'est ces petites taches jaunes. Les feuilles tombent pas, en tout cas pas pour le moment. De temps en temps, il y en a une, mais ça c'est normal. Et puis c'est ça qui m'intriguait. Est-ce que c'est dû à ces moucherons ou aux produits que j'ai utilisés?
Non, moi je pense pas. Je pense pas que ce soit dû ni aux moucherons ni aux produits. Mais sans voir la plante, c'est difficile d'être sûr à 100%. Moi, oui, je pense plutôt que c'est plutôt une maladie qui s'est développée. Mais le moucheron, lui, je pense pas qu'il va apporter ce problème-là.
Merci Claudine en tout cas de nous avoir appelé. Et puis tenez-nous au courant.
Merci.
Bon week-end.
Parfait, bon week-end.
Bon week-end, au revoir.
Vous pouvez vous aussi faire comme Claudine et nous appeler au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également nous envoyer un SMS au 939. Vous tapez le mot jardin en début de message, puis un espace avant votre question. Et il y a encore le formulaire internet que vous trouvez sur notre site.
7h, 8h, les jardinières.
Et on est toujours avec Fabrice Rondet, notre professionnel lève-tôt du jardinage ce matin. Et on a reçu un formulaire de Kathleen de Tramelan qui nous demande la question suivante. Je déménage la semaine prochaine et avec le froid qui est annoncé, je me demande comment déménager mes plantes d'intérieur, surtout les orchidées, afin qu'elles ne prennent pas le froid. Excellente question, Fabrice.
Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses à faire attention. C'est les courants d'air entre le déménagement de la plante de l'appartement à la voiture et de la voiture au nouvel appartement. Donc, la voiture, prenez soin peut-être de la tempérer, d'allumer un petit peu avant pour qu'on ait une température qui soit à peu près équivalente à l'appartement. Laissez pas les portières ouvertes entre le déménagement des plantes pour les remettre dans la voiture, histoire qu'il n'y a pas des vagues de froid qui rentrent dans le véhicule. Et puis, à la maison, enfin au nouvel appartement, faites pareil. Gardez-vous pour qu'il n'y ait pas d'air froid qui rentre. Et puis, si vous faites comme ça assez rapidement, ça devrait bien se passer normalement. Hein, parce que vous allez faire assez rapidement pour charger tout dans le véhicule, le trajet, elles seront au chaud, après rapidement de nouveau du véhicule au nouvel appartement sans courant d'air, elles ne devraient pas en s'ouvrir et il ne devrait rien se passer,
ça devrait aller. Le tout, ce n'est pas de les stocker dehors pendant longtemps, c'est
ça? Voilà, pas les laisser ouvertes, les laisser dans une pièce où c'est qu'elles sont au courant d'air, en tout cas, ou dans le véhicule, ou dans un courant d'air.
Est-ce qu'il faut un peu les recouvrir pendant qu'on fait ça?
Mais si on fait rapidement, non, je pense pas qu'il y a besoin de faire attention, parce qu'en les recouvrant, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être casser des hampes florales ou casser des feuilles, ça pourrait être délicat. Après, pendant le transport, elle va, je pense, faire attention pour bien les stabiliser, bien les bloquer pour qu'on ne peut bien tenir toute cette masse de feuilles ensemble aussi pour pas qu'il y ait de la casse. Mais je pense que les recouvrir, c'est le fait vite, ça devrait aller.
Et il faut aussi veiller à ce que l'appartement dans lequel elle emménage soit chauffé à la bonne température pour pas qu'il y ait une trop grande différence.
Voilà, exactement. Ouais, pas laisser les portes ouvertes, pas qu'il y ait ces vagues de froid qui rentrent dedans. Essayer de faire attention, les mettre dans une pièce où c'est qu'elle referme la porte derrière elle pour que tout se passe bien.
Merci Fabrice. On a Laurent de Reconvilliers qui nous a écrit « J'aimerais savoir si je peux déjà planter des fraisiers pour qu'ils donnent des fruits cette année. »
Donc je pense que... Il parle de les planter bien sûr en extérieur, donc maintenant planter en extérieur avec les froids qu'il fait, on a la terre qui est gelée, donc moi je dirais tout simplement d'attendre un petit peu, moi je préférerais attendre sur le mois d'avril, mai, et on devrait avoir des plantes. Le fraisier c'est quand même une plante qui se développe assez rapidement, donc même en les plantant à cette période, en avril, mai, il va gagner du temps sur le développement de ses plantations, et il va faire quand même une récolte cette année. Donc attendons un petit peu, comme ça il sera quitte de réinvestir deux fois, d'avoir un coup de frein trop important sur ces plantes.
Merci Fabrice, vous êtes avec nous jusqu'à 8h et jusqu'à 8h, vous pouvez poser toutes vos questions par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par écrit, par SMS, vous tapez le mot jardin, un espace avant votre question et vous envoyez le tout au 939. Il y a aussi le formulaire internet qui se trouve sur notre site.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
Les jardinières, ça continue jusqu'à 8h. En ce dernier samedi de février, on parle jardin et de tout ce qui s'y rapporte. Nous sommes en charmante compagnie, puisque c'est Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy, qui est avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Les Jardinières, c'est une émission qui vous appartient. On vous donne la parole si vous avez des questions au sujet de la taille des arbres fruitiers, de vos plantes d'intérieur, de vos arbustes et même de vos alentours. N'hésitez pas à nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ainsi, vous aurez l'occasion de discuter directement avec Fabrice Rondet. On lira également toutes vos questions par SMS. Pour nous envoyer un message, tapez d'abord le mot « jardin », un espace, puis votre question et vous nous envoyez le tout au 939. Et sur notre site, vous trouverez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. Si vous choisissez la solution par écrit, n'hésitez pas à nous fournir le plus de détails possible afin d'obtenir une réponse vraiment complète. Et bien sûr, pour tout complément, vous pouvez toujours appeler le 0901 70 20 20.
Et le SMS, c'est donc un moyen qui marche très bien. Muriel du Locle vient de l'utiliser pour nous envoyer la question suivante. Comment me débarrasser définitivement des liserons qui envahissent la plate-bande et tout ce qu'elle contient, Fabrice ?
Alors, le liseron, c'est quelque chose qu'on aime vraiment pas, parce que il porte normalement, il a un réseau de racines qui est très important, très, très dense, mais aussi très long. Donc, ce qui est important de faire pour ça, c'est en tout cas pas diviser ses racines, parce que chaque bout de racine va nous apporter une nouvelle plantule. Donc, il faudrait éviter de bêcher, de passer le motoculteur prochainement dans cette plate-bande. Après, d'arracher, ça va redémarrer aussi, parce qu'on n'arrivera pas à extirper ça. On dit que le liseron, une plante quasi adulte, peut arriver jusqu'à 1,20 m de longueur. Donc, on imagine très bien la difficulté de sortir ça du terrain par un désherbage mécanique traditionnel. Il y a le désherbage chimique. Le désherbage chimique, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas en entendre parler, mais je pense que dans une situation comme celle-là, c'est peut-être la meilleure des solutions pour être rapide. Ce qu'il faudrait faire, c'est que si on imagine une racine qui fait à peu près 1,20 m, on imagine clairement que de traiter un bout aérien d'une vingtaine de centimètres va faire que ralentir la croissance de la plante. Donc l'idéal, ce serait de laisser pousser ce liseron le plus long possible dans les premières semaines de l'année, pour qu'un maximum de feuilles puissent absorber du produit pour le véhiculer jusqu'au bout de la racine. Comme ça, on n'aura pas un ralentissement et un redémarrage de la plante après. Ce qui va se passer, c'est que si on laisse 1,50 m, 2 m de longueur hors sol, on va pouvoir véhiculer du produit pour aller, on espère, jusqu'au bout de cette racine pour faire complètement mourir cette racine. Donc après, si nécessaire, si on voit que ça redémarre, refaire encore une fois ce traitement. Moi, je pense que c'est une des seules formules qui marche vraiment, si elle en a beaucoup.
Merci Fabrice. Nous avons Janine de Delémont qui nous a appelé pendant la pause musicale. Elle a une question pour vous au sujet de ces cailloux blancs qu'elle a sur une place. Et avec l'hiver, les pierres sont devenues jaunes. Alors elle se demande s'il faut remettre des nouveaux cailloux blancs ou est-ce qu'elle peut mettre un produit pour les nettoyer ?
Alors, il existe des produits sur le marché qui sont pour l'entretien des pierres, effectivement. Ces produits, on peut les trouver dans des centres de vente de personnes qui vendent des dalles, des pavés ou de la pierre naturelle. Autrement, il y a la possibilité de regarder pour tout simplement remettre une couche en surfaçage, mais c'est quelque chose qui devient aussi onéreux et qui va augmenter la hauteur de sa plate-bande en cailloux. Donc après, ça peut être visuel, pas très esthétique non plus s'il y en a trop.
Ces produits pour les cailloux blancs, est-ce qu'ils sont naturels ou ils peuvent représenter un danger pour la nature ?
Alors, ça dépend quel type de produit elle va utiliser, mais effectivement, ces produits, bien souvent, on a un petit peu des acides dedans, dans certains. Et puis, si elle a des gazons, des vivaces, des choses comme ça qui sont à proximité à la pulvérisation, l'application du produit, on peut avoir une réaction qui se manifeste sur les plantes autour, ouais. Donc il faut bien lire, bien se renseigner sur ce qu'elle va acheter, bien lire le mode d'emploi, comment pratiquer, les dosages, pas surdoser, pas sous-doser, parce que l'effet risque compté ne sera pas au rendez-vous. Après, on a aussi un endroit peut-être à l'envers qui va provoquer des venues de mousques, d'algues, de choses comme ça. Donc bien montrer aussi peut-être à la personne chez qui elle va se fournir quel type de problème elle désire, parce que ça peut être des mousses, des algues, ou alors simplement des salissures qui proviennent de la pollution atmosphérique. Donc le produit ne va pas agir de la même façon.
Notre boîte à SMS se remplit gentiment. On a Natacha de Courandelin qui nous a envoyé la question suivante. Fabrice, quel est le traitement curatif le plus efficace et radical pour se débarrasser des cochenilles sur une orchidée ?
Alors, il existe un produit dans le commerce qu'elle peut retrouver chez quelques revendeurs de la région où c'est qu'elle préfère se rendre, qui va traiter que la cochenille, et rien d'autre. Donc, c'est aussi simple que ça.
Donc, il y a simplement à se rendre, et puis voilà, il n'y a pas de...
Acheter un produit contre les cochenilles, simplement pas se tromper, pas acheter pour une autre bestiole, donc et ça fonctionnera très bien.
Les cochenilles, c'est quelque chose qui est un peu propice aux orchidées, ou ça peut aller sur
plantes ? Voilà, on peut la trouver sur plusieurs plantes, on peut la trouver sur un peu toutes les plantes d'intérieur, même à l'extérieur.
Nous avons une question de pelouse pour vous, Fabrice. Je dois refaire ma pelouse et je me demandais s'il existait des types de pelouse peu gourmands en eau et donc plus économiques.
Alors, je pense qu'il n'est pas peut-être nécessaire d'acheter une pelouse spécialement économique par rapport à ça, parce que en achetant une pelouse peut-être résistante au piétinement, un peu de type sportif qu'on met traditionnellement autour d'une maison familiale, on peut avoir de très bons résultats. Ce qui est important peut-être, c'est l'entretien par les tontes, pas raser la pelouse, apporter des engrais assez régulièrement dans l'année pour développer un système racinaire. Plus le système racinaire sera important, plus on va aller chercher une traçabilité d'eau dans l'été en profondeur. C'est surtout ça qui est important. Il ne faut pas fatiguer la pelouse par une tonte excessive et puis stimuler sa croissance par ses apports d'engrais. Et puis comme ça, on aura un gazon qui sera bien résistant, qui va bien fonctionner.
On parle donc dans la question de type de pelouse. Alors, est-ce que le type de pelouse change selon le pays dans lequel on est ? C'est-à-dire qu'on n'aura pas la même pelouse, par exemple, que dans le sud de la France, où c'est finalement la pelouse est tout le temps composé des mêmes éléments.
Non, alors effectivement, selon les altitudes, selon le type de terrain, selon l'utilisation, on va avoir des compositions différentes. Donc par exemple, on le voit très bien par rapport à un terrain de foot, un terrain de golf ou un terrain qui est autour d'une maison familiale, on aura des gazons qui seront différents. Donc effectivement, par rapport après à l'altitude aussi, on aura des mélanges grainiers qui vont mieux se développer en altitude qu'en plaine, que si on est au niveau de la mer.
Et on va revenir à notre boîte à SMS avec Muriel Dulocle qui nous posait tout à l'heure la question sur le liseron. Alors elle nous a à nouveau écrit en disant qu'elle a bien écouté la réponse et elle demande, en cas d'utilisation de produits chimiques pour le liseron, quel est le risque pour rosiers et autres iris, muguets, fraises, des bois, etc.
Ah, donc elle a son liseron qui se développe parmi d'autres plantations. Donc effectivement, un herbicide total qu'on utiliserait pour venir à bout de ces liserons auront un impact sur ces autres plantes. Donc, moi, ce que j'avais fait, tout simplement, c'est qu'on avait laissé pousser ces liserons, comme je le disais, sur une longueur très importante. Et puis après, si on image un petit peu la chose, on avait peigné, c'est là un chemin en béton, en pavé à côté, au macadam. On avait ressorti toutes ces croissances de pousses sur ce chemin en dur. Donc, une fois que toutes les tiges de liseron avaient été ressorties sur ces chemins en dur, on avait traité le liseron que sur les chemins en dur, donc on n'avait pas appliqué le traitement dans la plate-bande. Et on avait pu gagner la partie de cette façon-là.
Merci Fabrice, vous pouvez encore, vous avez quelques minutes pour reposer vos questions, donc n'hésitez pas à appeler au 0901 70 20 20 ou nous envoyer un SMS au 939 en tapant le mot jardin et un espace avant votre question. Et vous avez également un formulaire internet qui se trouve sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières.
Les jardinières.
Fabrice Rondet est avec nous encore pendant quelques minutes et on a reçu un nouveau SMS de Muriel Dulocle qui nous dit la chose suivante par rapport donc à ce traitement des liserons. Elle nous dit qu'elle l'avait déjà fait, donc le dernier conseil que vous lui aviez donné. Malheureusement, même en sprayant sur les racines, et elle n'avait obtenu aucun succès par rapport à l'élimination de ce liseron. Combien de temps le traitement peut-il durer, nous demande-t-elle.
Il y a une chose que j'arrive pas à m'imaginer, c'est déjà comment, si la plante est en place, comment elle peut traiter les racines, du fait que la racine est dans la terre. Donc je pense que l'explication n'est pas très claire. Maintenant, si on respecte le dosage au niveau du produit, si l'application du produit se fait sans qu'il y ait de pluie derrière dans les 4-5 heures qui suivent, comme c'est des herbicides de contact, en respectant ces deux paramètres-là, dosage, bien sûr un bon produit et puis pas de pluie derrière, franchement ça doit fonctionner à 100% d'entrée de jeu. Et comme c'est des herbicides de contact, ça va réagir tout de suite. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'un herbicide de contact ne va détruire que ce qui est en place et que ce qui est touché par le produit. C'est pas des produits qui peuvent rester, par exemple, au niveau des sols pour traiter quelque chose qui viendrait à germer dans l'après-midi ou même le lendemain. Donc, il faut vraiment toucher la partie foliaire de la plante pour que ça agisse. Donc, au niveau des racines, si elle tire la plante, qu'elle la traite, et puis qu'il reste une partie de la racine dans le terrain, ça va redémarrer, ça c'est certain. Donc, il faut vraiment qu'elle tire toutes les tiges sur le chemin, qu'elle traite les feuilles sans les avoir arrachées. Donc, il faut vraiment que la tige avec les feuilles soit encore rattachée à la partie racinaire. Et là, ça fonctionnera. Il ne faut pas essayer de les arracher, les traiter sur le truc, parce que, bien sûr, tout ce qui est dans le terrain va redémarrer aussi sec.
Ben merci beaucoup. En tout cas, on en invite Muriel à nous donner des nouvelles concernant le problème qu'elle a eu. Et puis, nous avons reçu un nouveau SMS, Sarah, effectivement.
C'est Hervé Despauvilliers qui demande si on doit arrêter le glyphosate, comment il peut faire pour brûler son gazon. Et lui qui en utilise quelques litres par année et à la vente par petite quantité, ça coûte cher, alors que par une dizaine de litres, c'est meilleur marché.
Alors, je suis un petit peu embêté pour répondre parce que pour traiter son gazon du glyphosate, c'est déjà un herbicide total. Donc, s'il traite son gazon chaque année, ça veut dire que chaque année, il recommence de refaire son gazon à zéro. Il va revenir au point de départ au niveau de la terre. Donc, je pense que c'est pas du glyphosate qu'il doit utiliser, c'est peut-être de l'herbicide sélectif de gazon qui parle, parce que je vois pas l'intérêt de recommencer son gazon chaque année. Après quelques litres par année d'utilisation, c'est énorme, parce que on part sur le glyphosate avec un pourcentage de 0,5 décilitres à 1 décilitre pour 10 litres d'eau, puis avec 10 litres d'eau, on fait 100 mètres carrés. Donc, avec un litre, on va faire 1000 mètres carrés. Donc, avec plusieurs litres, ça fait plusieurs milliers de mètres carrés. Donc, je pense qu'on ne parle pas du glyphosate. Après, il faut voir dans le commerce ce qui va pour peut-être recommander le produit adéquat. Il y a peut-être d'autres choses qui existent ou ce qui se fournit par rapport aux amateurs, aux professionnels. Tous les produits ne sont pas les mêmes à disposition. Et si c'est un herbicide sélectif, là peut-être qu'on a différents produits qui existent qu'on peut utiliser pour venir à bout des mauvaises herbes, mais c'est des traitements vraiment d'herbicides sélectifs. Je pense qu'il y a une petite confusion dans la donnée, là peut-être.
Merci Fabrice. On a reçu donc un nouveau SMS et c'est vrai que je dois dire que je me suis trompée. On pensait parler des liserons tout à l'heure par rapport au spray et en fait on parlait des orchidées et de la cochenille. Alors en fait c'était l'auditrice qui nous avait écrit par rapport à l'orchidée. Elle nous disait donc qu'elle voulait faire disparaître les cochenilles et elle nous dit sur son dernier SMS qu'elle l'avait déjà fait sans succès avec un spray. Et c'est là qu'elle demande combien de temps peut durer le traitement pour ces cochenilles. Toutes mes excuses, Fabrice.
Ah, pas de souci. Non, alors pour la cochenille, c'est une population qui est assez importante de cochenilles au niveau de ces plantes. Il faut peut-être voir aussi une chose d'un autre œil, c'est que peut-être la cochenille, c'est un petit insecte qui se présente comme une espèce de bouclier qui est rattaché sur la tige. Alors peut-être que son traitement a fonctionné et puis que le petit bouclier qui est rattaché sur la tige est toujours présent, mais que la petite bestiole à l'intérieur est morte. Donc ce qu'il faudrait vérifier, peut-être en grattant ce petit bouclier, c'est savoir si la bestiole qui est à l'intérieur est encore vivante ou morte. On le verra tout de suite par un produit en grattant la bestiole. On imagine tout de suite, quand on écrase un insecte, on voit tout de suite un espèce de petit jus s'en échapper. Et puis si la bestiole est morte, et ben, si on l'écrase, ben, il n'y aura pas ce petit jus qui va s'échapper. Voilà, c'est pas très ragoûtant, mais c'est le meilleur moyen de le vérifier quand même. Et puis en général, si on a une bonne attaque, effectivement, il y a écrit sur le flacon qu'on peut refaire le traitement dans les 10-15 jours après la première application. Et puis là, normalement, elle devrait pouvoir arriver à un bon résultat sur sa population de cochenilles qui devrait disparaître sur le deuxième traitement si le premier n'a pas tout éliminé.
On avait reçu une question de Maude des Franches-Montagnes qui voulait savoir quels arbres fruitiers planter dans sa région à 1000 mètres d'altitude, Fabrice.
Alors, au niveau des arbres, elle pourrait pratiquement tout planter. Donc, quand on parle de tout planter, c'est des pommes, des poires, des prunes. toutes ces choses-là. Il y a peut-être juste un choix à faire au niveau de certaines variétés. Parmi, par exemple, les pommiers, il y a certaines variétés qui seront plus adaptées à l'altitude. Donc, ce que je lui conseillerais, c'est de prendre contact avec un professionnel. Et puis, lui va lui indiquer qu'est-ce qui va le mieux par rapport à son altitude, si elle souhaite planter justement un poirier, un pommier ou un prunier.
Merci Fabrice Rondet d'avoir passé cette heure avec nous ce matin. Les jardinières, c'est déjà bientôt terminé pour ce samedi. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir fait partager votre savoir. À très vite Fabrice.
À bientôt, merci à vous. Bonne journée, bon week-end.
Merci Fabrice. Nous, on revient évidemment la semaine prochaine en grande forme.
Et si une question vous passe par la tête durant la semaine, vous pouvez nous la poser par SMS au 939 ou par formulaire sur notre site. Vos questions seront traitées en priorité samedi prochain. Et premier samedi du mois de mars, d'ailleurs, dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.